sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Série.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Pierre Monteil, Charles Bouticot et Lucas de Ronne. Réalisation Guillaume Baldi autour de moi ce soir en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio. Une dispute spécialement consacrée aux séries. Ce soir, Iris Bray, Lucille Como et Mathilde Wagman sont là. C'est une première pour Mathilde qu'on est très heureux d'accueillir à notre programme Ad Vitam de Thomas Caillet sur Arte, Homecoming de Sam Esmail sur Amazon Prime Video, Castle Rock de Sam Shaw et Dustin Thomason sur Canal+, et puis il y aura un coup de cœur, le cœur d'Iris Bray bas pour The Deuce, saison 2 en ce moment diffusée sur OCS. Il y aura bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Martine Franck jusqu'au 10 février. Ils sont dans les nouveaux locaux de la Fondation Henri Cartier-Bresson dans le Marais à Paris. C'est auréolé du prix de la meilleure série française au festival Sériemania. Ad Vitam a débuté sa diffusion hier soir sur Arte. Cette série créée et écrite par Thomas Caillet et Sébastien Mounier, réalisée par le premier, qui avait d'ailleurs aussi signé un long métrage, Les Combattants, dont nous avions parlé dans cette émission. Cette série donc réunit à son affiche Yvan Attal, Garance Marillier. On avait parlé d'elle pour son premier rôle dans le film Grave. Il y a également Neil Schneider, Rod Parado. Le contexte, un monde dans lequel la mort a été repoussée grâce à un traitement que l'on peut commencer à prendre à partir de l'âge de 30 ans, si l'on est compatible. Darius, flic plus que centenaire, mène l'enquête sur une vague de suicides qui touche les moins de 30 ans. Il mène cette enquête avec l'aide d'une jeune fille, Christa, qui fit partie 10 ans plus tôt d'un autre groupe suicidaire.
La doyenne de l'humanité vient de fêter ses 169 ans, l'âge le plus avancé jamais atteint par l'homme. On attend plus de 4 milliards de personnes ce soir pour fêter ce 169e anniversaire.
99 ans.
Vous êtes loin du compte.
Plus de 100 ?
119.
Vous vous foutez de moi ?
La pure vérité.
La cause de la mort est la même pour tous. Tir à bout portant sur la tempe droite. Ceci est le signe d'appartenance à une cellule pro-suicide.
Écoute, je vais pas y aller par quatre chemins, j'ai besoin de toi.
Je suis instable, psychotique. J'ai des excès de violence.
J'arrive à 277 disparus durant les 6 derniers mois.
Leur ennemi, c'est nous, tous ceux qui se régénèrent.
Vous pouvez pas gagner. Dans ce qui est crevé, alors que vous êtes tous obsédés par l'idée de vivre.
Tout votre paratin pour justifier ces morts inutiles, je vous laisserai pas recommencer.
Je parle au vivant, pas au mort.
T'es qu'un fantôme.
On stigmatise toute une frange de notre société, et après on s'étonne que certains mineurs se radicalisent.
Pas de pensée, pas d'excès, c'est ça qu'ils veulent, mais on n'est pas comme eux.
Qu'est-ce que ça peut foutre qu'ils se foutent en l'air? La vérité, même si personne n'ose la dire, c'est qu'on n'a plus besoin d'enfants.
Ad Vitam, la diffusion a débuté hier au soir sur Arte, qui se félicite des bonnes audiences, 977 000 téléspectateurs en moyenne. Alors évidemment, le principe de la moyenne, c'est que c'est la moyenne des deux épisodes diffusés, sauf qu'il y a 200 000 spectateurs qui sont partis en cours de route entre le premier et deuxième épisode, un peu plus d'un million pour le premier épisode, un peu plus de 800 000 pour le second. Voilà, les chiffres sont donnés. Vous, avez-vous regardé? Continuerez-vous à regarder? Nous allons en parler en tout cas, et c'est même Iris Bray qui va commencer sur Ad Vitam.
Alors effectivement, je trouve que les deux premiers épisodes que j'avais découverts à Sériemania m'avaient en tout cas un peu bousculé. Je m'étais dit qu'il y avait une vraie ambition pour cette série française qui allait poser des questions éthiques, philosophiques. En plus, moi j'adore Garance Marillier, je trouve qu'elle est absolument de tous les plans sublime, elle a une force animale. Donc j'étais vraiment ravie de la voir pendant plusieurs heures. Et à la fin donc de cette première saison, puisque j'ai pu tout voir, je suis... vraiment déçue, en fait. Honnêtement, je vois l'ambition de la réalisation, mais je trouve qu'au scénario, pour moi, ça pêche. C'était quelque chose déjà que j'avais ressenti en regardant Trépalium, qui était aussi une série d'anticipation. Et là,
sur Arte également.
Sur Arte.
Et ça n'allait pas.
Et ça n'allait pas non plus. Je trouve qu'il y a énormément de questions en fait qui ne sont pas posées. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que de ramener ça, parce que l'intrigue principale est une intrigue policière qui est résolue. Mais alors vraiment, cette intrigue ne m'a ni intéressée, la résolution non plus. Et je pense que ce qui était vraiment passionnant, c'était d'avoir le point de vue de cette jeune femme qui, elle, ne désirait pas en fait vieillir comme ça pendant toutes ces années.
Ne pas vieillir, plus exactement.
Enfin, ou ne pas vieillir. Enfin, en tout cas, d'avoir la possibilité de mourir. Et on va se comprendre. Et voilà, il y a une très grosse question pour moi qui est qu'est-ce qui se passe en fait quand on n'a plus besoin. Enfin, du point de vue féminin, en fait, des personnages féminins, puisque la femme d'Yvan Attal tombe enceinte alors que, bon, elle a plus de 100 ans, à partir du moment où...
Et que bientôt les grossesses seront sans doute interdites, puisqu'un référendum court aussi.
Voilà.
C'est un des fils de cette...
Je trouve qu'en fait, c'est une question qui est absolument pas abordée et qui, pour moi, est vraiment cruciale, puisqu'à partir du moment où on n'est plus ménopausée, où on n'a plus l'horloge biologique, qu'est-ce qui se passe dans le corps des femmes et dans leur tête et ça, je trouve que c'est pas du tout exploité. Moi, c'était vraiment... Au bout des deux premiers épisodes, je m'étais dit « Ah, il va y avoir quelque chose autour de ce désir de grossesse. » Et pour moi, ça tombe, quoi. Ça retombe très vite.
Bon, je reviendrai vers vous, Iris. Mathilde Wagman, premier regard sur Ad Vitam.
Oui, c'est étonnant. Moi, j'ai plutôt suivi le mouvement inverse de celui d'Iris. C'est-à-dire que le premier épisode, je me suis dit « Oh mon Dieu, au secours, quel énorme plantage !» Voilà, je ne suis pas surprise.
Pour quelle raison ?
Parce que je trouve que le premier épisode, le premier épisode d'une série, c'est toujours difficile, c'est toujours un endroit où il faut planter le décor, expliquer, voilà, c'est l'exposition, c'est toujours un peu périlleux, mais là, c'est particulièrement raté. Je trouve que les dialogues sont lourdingues, l'univers, qui est donc un univers d'anticipation, très mal campé. Voilà, personnellement, j'ai pas du tout accroché, je me suis forcée et j'ai trouvé que ça valait le coup de se forcer, et je pense qu'il faut dire aux auditeurs qu'il faut s'accrocher un peu, parce qu'en revanche, par la suite, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui valaient le coup. En fait, je trouve qu'il y a un grand contraste entre des choses très réussies et des choses très ratées. Les choses réussies, pour moi, c'est tout ce qui concerne cette thématique de la régénération, qui est assez amusante. C'est une idée simple, hein, que devient la jeunesse dans un monde où on ne meurt plus. Idée de base, mais qui, je trouve, est assez bien traitée, avec notamment visuellement des références à des univers, on pense à Cronenberg, enfin il y a cette très jolie idée autour de la méduse, c'est grâce à une propriété d'une méduse que les gens peuvent ne plus mourir, puisqu'on a découvert, et ça c'est une chose réelle, et je l'ai lu après, que certaines méduses peuvent se régénérer, et tout le traitement visuel de
je précise juste que non seulement ils ne meurent pas, mais leur aspect physique n'évolue que très peu,
hein.
C'est une sorte d'éternelle jeunesse. C'est pas seulement le fait qu'on n'est pas parcheminé, très très vieux, non, les traits ne changent pas.
Voilà, et du coup l'essentiel de la distribution est composé d'acteurs qui tournent autour de 40 ans, à l'exception des tout jeunes, qui eux, malgré tout, vieillissent jusqu'à ce point-là, avec cette chose très amusante que Yvan Attal incarne donc un personnage qui a 119 ans, et il y a tout un jeu autour de ça. Bref, toute cette dimension-là est très réussie. En revanche, toute une série de choses extrêmement ratées, notamment tout l'univers du personnage qu'incarne Nils Schneider, qui est donc une espèce de secte dans deux temporalités, hein, par le passé et dans le temps présent. De sectes qui fédèrent une jeunesse qui se rebelle contre cette société terrible dans laquelle on leur interdit de vieillir, avec à la fois un vocabulaire et une mythologie autour de cette secte ou pseudo-secte que je trouve très pauvre. Et du coup, voilà, j'ai pas du tout accroché sur cette dimension-là. Et vraiment, ce contraste,
Mais vous avez tenu jusqu'au bout pour les bons côtés que vous développerez
absolument.
Dans un instant. Lucille Comeau, votre regard sur Ad Vitam.
Oui, je vais peut-être rebondir directement sur la question de ce personnage-là, qui est en effet, à mon avis, parmi les personnages que je trouve globalement assez ratés, le plus raté de tous les personnages. Et je pense que ça tient pas à l'acteur, et que d'ailleurs aucun problème n'est vraiment lié au jeu, mais plutôt à l'écriture des personnages. En fait, c'est en effet le plus frustrant, je pense, parce que c'est le plus intéressant, cette idée que la jeunesse se radicalise à ce moment-là, là en réaction à cette éternité qui se met en place chez les adultes et au fait que du coup les parents, les grands frères, les grandes sœurs se retrouvent à physiquement ressembler aux enfants. Tout ça, c'est pas du tout creusé de la même manière que en effet l'évolution féminine n'est pas du tout creusée. Or, c'est la chose la plus intéressante et c'est aussi la chose la plus intéressante parce que c'est la plus politique. En fait, évidemment, la nature de la radicalisation, aujourd'hui, quand on voit ça, on pense à la radicalisation islamiste et à tous les parallèles qui pourraient être faits et qui pourraient être absolument, à mon avis, passionnants entre toutes les formes de radicalisation de la jeunesse dans un monde qui ne propose rien d'autre qu'une sorte d'éternité ou un modèle, en tout cas, de consommation absolue. Or, ce n'est pas du tout travaillé et les scènes, il y a des scènes donc autour de Nils Schneider qui est d'ailleurs un personnage totalement absent. On a même besoin d'un épisode flashback qui fait vraiment tâche à mon avis dans l'entièreté de la série pour comprendre ce qu'il fait là et ses motivations. Donc c'est terrible. Pour moi, c'est un aveu d'échec total du point de vue du scénario. Par ailleurs, sur la science-fiction, parce qu'on a parlé en effet d'intrigue policière. La science-fiction, c'est très compliqué parce que forcément, il faut établir dès le départ un protocole de compréhension avec les spectateurs. Il faut établir un monde, ses fonctionnements, ses règles sociales, ses règles sexuelles, tout ce que ça admet. Or, là, je pense que défaut tout le temps, je trouve, des séries françaises, on nous explique, on nous surexplique comment ça fonctionne. Donc, il faut bien 2-3 épisodes pour qu'on comprenne exactement comment fonctionne la régénération, ce qui se passe pour les jeunes qui veulent pas rentrer dans le système. Et ça, c'est vraiment pénible. En fait, on nous prend pour des idiots. Il y a quelque chose de désagréable dans le pacte qui se crée entre la série et les spectateurs. Moi, j'étais très déçue aussi. Hein. J'étais déçue par le premier épisode. Pour le coup, j'ai pas suivi le même processus que Mathilde Wagman. J'étais globalement déçue tout le temps, à part par quelques petits motifs, quelques images. En effet, la musique qui est magnifique. Mais sinon, c'était un petit peu.
Ouais, la bande originale et la bande son, d'une façon générale, est plutôt très réussie. On en reparlera tout à l'heure pour Homecoming aussi, parce qu'il y a un gros travail sonore sur la série dont nous allons parler tout à l'heure. Mais concernant ces personnages, vous parlez du personnage joué par Nils Schneider, même avec un épisode entier centré sur lui en flashback, on ne comprend quand même rien à ses motivations. Enfin, il y a censément une psychologie des personnages, mais qui est absolument au mieux irréaliste. Enfin, et le personnage de la jeune fille, pourquoi est-ce qu'elle aide le flic dans son enquête? Et franchement, 6 épisodes de 52 minutes ne résolvent absolument pas cette interrogation. Évidemment, cette interrogation, si elle était étayée, il faudrait qu'elle le soit véritablement. Là, on a une série qui tient sur quelque chose qui ne tient pas. Enfin, donc, du coup, la série elle-même, dans son entièreté, pour moi, ne tient pas. Et juste un mot encore, je vous redonne la parole, sur la dimension technologique, au-delà de l'explication de la régénération et des choses. Mais dire que on est dans le futur parce qu'on met des néons sur les capots des voitures et, ou que, pire, il y a quand même un personnage qui est censé introduire, j'imagine, un élément comique qui circule sur un overboard, mais les overboards, ça existe aujourd'hui. Mais dans le futur, par contre, ils font coin-coin quand ils marchent. Enfin, c'est une absurdité telle que vraiment, on se demande comment et ça a pu arriver. Mais c'est ça qui m'interroge toujours. Enfin, Arte, grande chaîne, qui a sans doute quand même un peu de moyens, comment on arrive à filmer, à produire et à livrer à l'antenne des produits avec autant de faiblesses, parce qu'il y a quand même un casting important, de beaux acteurs. Je ne partage pas votre goût pour Nils Schneider, que je trouve un des plus mauvais comédiens français, mais je pense qu'il n'est pas servi par cette fiction. Mais non, mais on est là pour... Ne faites pas la grimace, Mathilde Wagman. Je dis un peu franchement les choses, mais c'est peut-être que je le verrai un jour bon. J'ai peut-être vu toujours que dans des mauvaises productions. C'est peut-être le cas ici. Lucille, comment vous voulez rajouter?
Non, mais par exemple, pour citer aussi, vous parliez de la jeune fille et de Nils Schneider, mais même le flic, en fait, ne fonctionne que sur des éléments qui sont des éléments du cliché de la série policière. Le vieux flic, évidemment, il a perdu un enfant, évidemment, il boit, évidemment. Enfin, tous ces clichés-là, en fait, on n'en peut plus et on ne comprend pas comment, à un moment donné, des scénaristes se disent que ça peut construire un personnage aujourd'hui.
Comment ça c'est peut pas suffire possible. Parce que ce soit constitutif du personnage, pourquoi pas.
Oui,
mais
éventuellement, mais là,
la question, c'est comment on se démarque.
Référence, en fait, c'est juste une sorte de paquet de références. On sait qu'il est cinéphile, Thomas Caillé, on n'a pas besoin de
Non, mais là, il a trop regardé Mike Hammer plutôt que des bons films.
Je suis d'accord avec toutes les critiques que vous faites. Mais... Cependant, je vais prendre du coup la défense parce qu'il y a des choses que j'ai aimées dans la série à tel point que j'ai envie, moi, de voir une saison 2. Je suis absolument d'accord avec vous sur la critique En fait, je trouve qu'il y a un contraste phénoménal entre tous les décors qui relèvent des intérieurs, la secte, les cafés, qui effectivement sont éclairés avec des néons qui ne
suffisent pas à figurer. De toute façon, c'est bleu ou rose. Hein,
voilà, exactement, c'est bleu et rose. Et ça ne suffit pas à figurer un univers du futur. Par contre, les extérieurs, je trouve absolument étonnant. Je me suis demandé d'emblée, dès le premier épisode, mais où sont tournées ces scènes? J'ai pensé à Tel Aviv, parce que c'est baigné d'un soleil assez beau et qui, pour le coup, participe
en fait,
vraiment
l'Espagne,
de...
Non.
Et voilà, en fait, c'est Benidorm. Et il y a des décors comme ça d'entrepôts abandonnés, de restaurants à l'abandon, qu'on imagine bien dans l'Espagne contemporaine, post-crise de l'immobilier, et qui, pour le coup, je trouve... fonctionne. C'est-à-dire que moi, tous les extérieurs, j'y crois et ça m'a aidé à croire à cette société du futur. Par ailleurs, je pense que Garance Marillier est quand même une actrice exceptionnelle. Moi, je n'avais pas vu Grave de Julia Ducournau, donc je la découvre ici et elle fait que j'ai envie de la suivre.
Même si elle est quand même très mono-expressive, c'est pareil. Le personnage n'existe pas beaucoup, il n'a pas beaucoup de latitude de jeu. Alors faire la tête pendant 6 fois 52 minutes, si vous voulez, c'est quand même un peu limité.
Plus subtil,
je crois qu'elle a du talent.
Il y a par exemple une scène, je crois, dans le premier épisode où elle est face à ses parents. Effectivement, la scène raconte pas grand chose, mais elle arrive par son jeu à instaurer une forme de tension dramatique. Enfin, moi, j'ai ressenti une forme de suspense même dans cette scène-là. Je trouve que c'est assez fort.
Iris Bray.
Je suis d'accord sur Garance. Je trouve que tout de suite.
Garance. C'est une pote à vous.
Je trouve que c'est
Garance Marillier.
Je trouve que c'est la meilleure jeune comédienne française aujourd'hui et qu'elle incarne vraiment quelque chose de différent à l'écran. Tout de suite, on la voit apparaître, on voit un corps, on voit la manière dont elle bouge. D'ailleurs, le dernier épisode, pour moi, le seul moment un peu intéressant, c'est un moment où elle est dans l'eau. Enfin, moi, c'est cette matière un peu de la méduse, de l'eau qui me rattache un petit peu à cette série. C'est-à-dire que cette série, c'est un excellent pitch et qu'après,
un énorme gâchis, donc on pourrait dire aussi. Non, mais parce que c'est vrai que les thématiques que vous avez toutes trois abordées très justement, on a envie de les voir creuser, développer. Pourtant, le temps est là, permettrait, la série permet justement de creuser. Et en 6 fois 52, au moins. Ne pas rester dans des surfaces de clichés, Lucille Como.
Oui, en fait, c'est à la fois trop riche et trop pauvre. Par exemple, il y a une dimension dont on n'a pas parlé, qui moi, je trouve, leste quand même beaucoup, beaucoup le scénario. C'est la dimension un peu mythique, symbolique. C'est-à-dire que le lieu s'appelle Attenberg, elle s'appelle Christa. Enfin, franchement, ça sert à rien, en fait, de rajouter des espèces de couches un peu pseudo-intellectualisantes. Et c'est dommage. Vraiment, c'est ce genre de choses... c'est pas grand chose, mais qui gâche la série.
Allez, un dernier mot pour la défense avec Martine Wegman pour
J'allais dire pour le coup, me vient une idée dans le clan des contres.
Ah, bah allez-y alors.
Bon,
écoutez,
non,
c'est
mais
ça
rejoint ce que Lucille Como vous disiez tout à l'heure sur la dimension politique. Il y a une maladresse énorme, je trouve. Dès le début de la série, on sait qu'il y a des jeunes qui se suicident donc, pour résister à cette société de la jeunesse éternelle. Et on les appelle des terroristes et on fait référence à des attentats. Et je trouve que c'est un contresens absolu. À un moment, il y a un personnage qui dit à propos de ces jeunes, partout on les traite de terroristes, moi je ne vois que des enfants qui paniquent dans le noir et ont besoin d'être rassurés. Évidemment qu'on pense aux terroristes réels d'aujourd'hui. Et pour le coup, je trouve que ça aurait été beaucoup plus fort que dans cette société, de défendre l'idée que dans cette société, le fait que des jeunes se suppriment, au fond, est une bonne chose. C'est-à-dire que l'État aurait tendance à considérer que, youpi, les jeunes se suppriment, merveilleux, puisqu'il y a un gros problème de surpopulation et qu'il faut qu'il y en ait moins. Donc là, je trouve qu'il y a vraiment une maladresse dommageable.
Bon, encore un exemple. Contre
oui,
Mathilde Wegman.
Bon, je trouve que ça vaut quand même le coup d'aller voir la deuxième saison, moi.
Bon, vous serez peut-être moins nombreux. Je ne suis pas sûr qu'on en parle de la saison 2, mais vous nous raconterez. Ad Vitam de Thomas Caillet est diffusé en ce moment sur Arte, les deux premiers épisodes hier soir. Et puis donc, les deux semaines qui suivent, à suivre nous dans la dispute Homecoming, Castle Rock et The Deuce.
La dispute France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute série, toujours en public au Bel Air. Nous vous attendons tous les vendredis. Suite de cette dispute avec un événement. La première série dans laquelle joue Julia Roberts, qu'elle produit également, tant qu'à faire. Homecoming. Son créateur est Sam Esmail, le créateur de la série Robot, Robot, pour les Français. Homecoming, c'est l'adaptation d'un podcast co-signé Elie Horowitz et Emika Blumberg. Chose amusante, Samuel Smell était surpris qu'on puisse faire des fictions en podcast. On lui conseille d'écouter celle de France Culture, bien sûr. Cette série est située entre deux temporalités. Homecoming, c'est le nom du centre dans lequel Julia Roberts, Heidi, dans la série Thérapeute, pour les soldats américains qui reviennent du front, qui sont le centre qui est censé faciliter leur retour au pays. Mais d'autres séquences, situées plusieurs années après, voient Heidi, serveuse d'un diner un peu miteux, et puis un fonctionnaire du ministère de la Défense qui mène une enquête suite à une plainte visant donc Homecoming.
Heidi Bergman, correct?
Yeah, do I know you?
I'm Thomas Carrasco with the Department of Defense. You were employed at the Homecoming Transitional Support Center. We received a complaint about that program.
Have a seat, please. We can get started. You acknowledge that your participation in the Homecoming Transitional Support Center is voluntary and uncoerced. I just need you to verbally acknowledge that.
Oh, yeah, yes. I do. What we need is passion.
Homecoming is a safe space to process your military experience and think about what comes next.
We're going to keep this up tonight. You just have to watch everything you say. They don't give a shit what it is we're trying to do.
Homecoming. C'est sur Amazon Prime Video qu'on peut découvrir cette série signée Sam Esmail qui a réalisé les. Il y en a combien ? 8 ou 10, je ne me rappelle plus d'épisodes.
10.
10 fois. Trentaine de minutes, c'est l'avantage des plateformes, on n'a pas un format absolument rigide, ça peut être un peu moins de 30, un peu plus. Et c'est Mathilde Wagman qui commence à nous parler de cette série.
Alors moi j'ai été absolument emballée par cette série et happée dès le premier épisode pour le coup, qui est donc une série en forme de thriller à suspense assez classique, hein. Il y a voilà, ce récit d'une enquête, mais avec cette originalité que le récit repose sur une double temporalité, 4 ans plus tôt, 4 ans plus tard, sans que, je crois, on ait référence d'ailleurs à une date précise. Je ne crois pas qu'il ait dit
que ça se passe... C'est pas en quelle année ça se situe.
Voilà. Oui. Simplement, on sait qu'il y a 4 ans plus tôt, 4 ans plus tard, dans un monde qui ressemble beaucoup à notre univers contemporain. Et en fait, avec cette idée que je trouve formidable, qui est celle d'utiliser une esthétique du passé pour incarner quelque chose qui relève d'une vision, sinon futuriste, du moins d'un univers quand même d'anticipation, enfin... Il y a quelque chose dans l'histoire qui relève d'une fable un peu dystopique, puisque ce centre de réinsertion, qui bien évidemment fait écho à l'Amérique contemporaine et à la thématique des syndromes post-traumatiques des soldats en Irak.
C'est un effet qu'on a quand même souvent vu, le rétrofuturisme, c'est...
Oui, mais je trouve que là, c'est vrai, mais c'est fait avec un savoir-faire et surtout une efficacité vraiment formidable. Et il y a une jubilation, j'ai senti moi une jubilation de la part du showrunner, comme on dit, de celui qui dirige cette série, à faire référence à toute une esthétique du cinéma des années 60. On pense à Hitchcock, on pense à Pacula, enfin on peut citer une liste infinie de réalisateurs. Voilà, pour raconter cette histoire, il y a vraiment des choix dans la direction artistique, c'est-à-dire tout ce qui relève des décors, des costumes, bien sûr, du choix des teintes. On surfe entre des couleurs qui vont du beige clair au marron foncé, mais ça s'échappe pas beaucoup de ça. Et puis des effets d'image. Il y a une référence, par exemple, une utilisation du split screen, cet écran coupé en deux. qui est utilisé de manière tout à fait pertinente dans les dialogues entre Julia Roberts, qui incarne donc le personnage principal de la série, et Bobby Cannavale, qui incarne son chef, le grand chef de ce centre de réinsertion, qui lui n'est jamais sur les lieux.
Toujours au téléphone avec son oreillette.
Absolument.
Ses oreillettes, il a la stéréo lui.
Exactement. Avec son oreillette. Et puis, cet usage d'un double format d'image, 4 tiers pour l'univers 4 ans plus tard et 16 neuvièmes pour l'univers donc, d'un passé tout récent, qui est vraiment très, très joli. En fait, le 4 tiers, donc un format d'image quasiment carré, enfin, je crois que c'est du 4 tiers, représente et incarne, comme ça, donne chair à un espèce d'étouffement que ressent le personnage. De manière tout à fait satisfaisante. Et juste un mot pour dire que la distribution est vraiment absolument fantastique. Bobby Cannavale, moi, c'est un acteur que j'avais découvert dans Vinyl, hein, la série initiée par Scorsese, et qui est vraiment extraordinaire. Julia Roberts, c'est Julia Roberts. Moi, je suis une femme absolue, donc voilà. Et puis, il y a cet acteur que je me souvenais avoir vu ailleurs, mais voilà, dont je ne connaissais pas le nom, qui incarne l'enquêteur Thomas Carrasco, qui s'appelle Shia Wigham, et qui est vraiment merveilleux dans ce rôle d'enquêteur un peu benêt, pauvre homme, coincé dans son bureau, qui est très drôle.
Voilà, vous pouvez enchaîner, Lucille Cobo, avec deux de vos acteurs fétiches.
Je suis fan de Shia Wigham, que j'avais découvert dans Boardwalk Empire, dans laquelle jouait aussi d'ailleurs Bobby Cannavale, qui est un acteur qu'on voit en fait dans tous les films américains. C'est-à-dire que là, vous allez au cinéma, vous allez dans n'importe quelle salle, il y a un film américain. Il a un petit rôle de médecin, enfin, assez souvent d'ailleurs d'homme un peu de bureau ou de médecin, qui est en effet génial et qui est en effet un des personnages les plus intéressants. Moi, pour le coup, j'étais pas hyper convaincue au départ. Cet effet justement de double format me laissait un peu pressentir la série un peu à dispositif qui veut faire bien avec beaucoup d'effets formels, donc la musique. Il y a un gros travail sur le titrage des épisodes, sur la manière dont commencent et finissent les épisodes. J'avoue que ça m'a un petit peu laissé de marbre au départ, d'autant que le sujet, j'ai mis beaucoup de temps à l'appréhender. J'ai cru assez longtemps, disons pendant 2-3 épisodes, à une série sur la réinsertion des vétérans. Or, c'est un sujet qu'on voit énormément en ce moment dans la fiction, dans le documentaire, qui a été extrêmement bien traité par ailleurs. Donc, j'ai eu un petit peu peur d'assister à des dialogues récurrents entre donc Heidi, donc Julia Roberts, et le personnage qui est en face d'elle, qui est ce Marine dont elle s'entiche assez vite. Donc, et qui m'intéresse d'ailleurs pas beaucoup tout le long de la série, cette relation qui devient quand même assez vite. Ce n'est pas divulgaché de le dire que ça devient une relation un peu plus intime qu'une relation de psy à patient. Ça m'a un peu gênée. Je me suis dit, une série un peu qui se la raconte, à sujet en plus sur les États-Unis, la déliquescence américaine, vue via ce prisme-là, ça m'a pas beaucoup intéressée. Et en fait, je dois dire que cet effet un peu formel est vraiment efficace. C'est-à-dire que c'est assez spectaculaire, finalement, la manière dont les deux temporalités s'alternent d'abord, puis finissent par se rejoindre en un final quand même vraiment spectaculaire. Là, pour le coup, moi, j'ai trouvé ça assez beau. Donc, ça m'a convaincue, sauf... Enfin, pour le coup, moi, qui ne suis pas du tout une fan de Julia Roberts, elle me laisse assez indifférente. Je n'apprécie pas particulièrement son jeu, et vraiment, toutes les scènes, et elles sont nombreuses, qui sont les scènes où elle se retrouve face à ce patient, m'ont un peu ennuyée, ça, il faut le dire. En fait, j'aime beaucoup tous les personnages secondaires, mais leur relation à
on
eux...
On voit quand même beaucoup de Julia Roberts tout au long des épisodes.
Et elle fait vraiment tout le temps la même tête. Enfin, je suis désolée, mais air de commisération, larmes aux yeux, enfin, c'est pas possible.
Non, mais bon. Julia Roberts, on aime ou on n'aime pas, ça ne se discute pas.
On est là quand même un peu pour ça.
En fait.
Iris Bray sur Homecoming.
J'adore Julia Roberts, je la trouve absolument incroyable. Moi, je suis un peu moins dithyrambique que vous. Je trouve que justement, l'effet formel de passer entre ces deux formats est vraiment appuyé, le côté claustrophobie, dès qu'on a les deux barres noires. C'est-à-dire que moi, au 7e épisode, enfin, au 6e, je ne sais même plus combien il y en a, je trouvais ça vraiment oppressant. Puisque
mais n'est-ce pas surtout un peu littéral, parce que je suis plutôt de votre côté, on va le comprendre.
C'est-à-dire, au début, à quoi ça sert en fait de vraiment comprendre le passé et le présent? Moi, j'ai plus besoin en fait de ces deux barres qui m'indiquent qu'on est dans le passé. Enfin, je trouve ça extrêmement redondant. Je trouve qu'il y a un vrai travail plutôt sur la photo, sur la lumière, qui est intéressant. Il y a quelque chose de glacé, de très lisse. Mais le problème, c'est que j'ai écouté le podcast. Et une fois qu'on a écouté le podcast, tout ça nous paraît, en fait, tout cet aspect formel nous paraît extrêmement nuisible quasiment à ce qui se raconte. Parce que c'est, donc les deux personnes qui ont créé le podcast sont aussi les scénaristes de la série et on est mot pour mot dans les mêmes dialogues, sauf que le son qui est travaillé au podcast est effectivement ce qu'on retrouve dans la série. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un univers qui est créé, même avec l'aquarium, enfin les bulles, tout d'un coup, le fait quand on parle au téléphone dans ce split screen, on entend mal les gens. Mais tout ça, c'est déjà présent quand on écoute, et je trouve que justement dans le podcast, le fait qu'on sache pas exactement si on est avant ou après, parce qu'il n'y a pas de voix off, c'est-à-dire qu'on est vraiment comme si on était dans la série, sauf qu'on n'a pas les écrans qui nous indiquent si on est 4 ans avant ou 4 ans après, et ça fonctionne très bien sans ces deux barres noires qui nous rappellent attention, on est opprimé. Donc j'ai trouvé que finalement le travail de Sam Esmail m'a pas apporté grand chose, et je trouve que les derniers épisodes vraiment ça s'accélère, et là oui je suis beaucoup plus prise en fait dans cette espèce de thriller cérébral, mais avant ça j'étais un peu de marbre.
Moi je suis plutôt dans votre camp. J'avoue que là il y a déjà deux autres saisons qui sont prévues. Moi la première m'a quand même émoussé mon intérêt pour Homecoming. Alors vous citiez Hitchcock, moi je vois mal Hitchcock, je vois Pacula, oui, je vois surtout tout ce nouvel Hollywood parano, le Conversation secrète de Coppola, ce type de film. Mais c'est très bien d'avoir des références, savoir qu'est-ce qu'on en fait. Moi je trouve qu'il n'en fait pas grand chose, ça reste une sorte de dommage, mais qui est vous savez, les musées des faux, enfin à la manière d'eux, et donc il fait à la manière d'eux, mais je vois pas ce qu'il amène lui. Je sais pas qui c'est Sam Esmail en fait quand je vois cette série, et je trouve qu'il manquerait quand même pas grand chose. Le fossé est moins grand que pour Ad Vitam, mais il manquerait pas grand chose pour que Homecoming soit vraiment passionnant, qu'il y ait un sens de une tension dans le récit. Mais je trouve que à force de se regarder filmer, Sam Esmail perd d'intensité. Je trouve que chaque séquence est toujours un peu trop longue, qu'on s'arrête un peu trop longtemps sur tel détail. Peut-être qu'on a un peu trop de gros plans de Julia Roberts, que moi j'aime beaucoup. Je suis dans cette équipe-là pour le coup, on est majoritaire ce soir. Mais même cette sujet délicat, mais cette insistance à faire des très gros plans de Julia Roberts pour bien montrer que c'est une comédienne qu'on a connue dans la splendeur de ses jeunes années, qu'aujourd'hui le passage du temps est inscrit sur son visage, que les rides sont là, que le visage est fatigué, que cette bouche souriante est devenue maintenant une bouche plutôt grimaçante. Là, c'est pareil, c'est un peu trop aussi. C'est-à-dire qu'on veut tellement nous montrer ce qu'on doit regarder. Moi, j'ai pas envie qu'on me flèche absolument tous les effets. Et Sam Esmail, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui use du stabilo, du fléchage. Et s'il se retenait un tout petit peu, s'il nous laissait un tout petit peu de latitude en tant que spectateur, j'aurais peut-être trouvé un peu de plaisir. Là, vraiment, je trouve ça tellement dirigé. Vous n'êtes pas d'accord, Lucie Comeau?
Non, en fait, je vois ce que vous voulez dire. Je vois en quoi c'est un objet froid. Et la lenteur, je la vois aussi. Mais elle m'intéresse parce que je trouve qu'elle instille, et je reviens à mon obsession des films et des séries à sujet, elle donne un peu de lest, enfin, elle donne de l'air dans une narration qui aurait pu être très primaire dans le fond sur ce que ça raconte, sur les troubles d'identité. Là, je trouve qu'elle donne une étrangeté à la série, une vraie étrangeté, et du coup une distance pour le spectateur. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de voir que tous les personnages, et y compris du coup le spectateur, finit par souffrir de troubles de l'identité, de troubles d'identification. Par ailleurs, dans cette distance, il y a aussi beaucoup d'humour, je pense. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire comme série. Il y a notamment des personnages qui chutent en permanence. Je crois que c'est assez révélateur. Tout le monde est instable dans la série, y compris l'enquêteur qui est censé rationaliser le tout. Il tombe à plusieurs reprises. C'est extrêmement bien fait, tout ça, ce processus de déstabilisation. Et je pense que ça passe par une forme de... Moi, je trouve que c'est élégant, mais on pourrait dire de coquetterie un peu à la réalisation, et par le temps, par vraiment, voilà, chaque plan s'installe, il y a une forme de lenteur. Pour moi, c'est pas insistant, mais en fait, je vois quand même ce que vous voulez dire.
C'est vrai que cette lenteur, pour moi, est au contraire totalement fabriquée. Les chutes à répétition, c'est pareil.
Oui, c'est très fabriqué. Ça, je suis d'accord. Mais ça va très bien avec l'histoire. En fait, tout est fabriqué dans l'histoire. il y a une sorte de mise en abîme, je pense, de la fabrication de ce monde-là dans une série qui est elle-même très fabriquée. Pas inintéressant.
Mathilde Wagman.
Oui, en fait, moi, je trouve que ce côté fabriqué est aussi au service de l'idée que la série défend, qui, au fond, n'est pas tant une critique la société américaine militariste, ce qu'on croit au début, en effet, mais en réalité, tout simplement, une critique du statut du travail dans les sociétés ultralibérales contemporaines. Le vrai sujet de cette série, c'est le travail. Et il y a un épisode dans ce registre qui est, je trouve, vraiment extrêmement réussi. C'est l'épisode 9, je crois, qui s'appelle Work. Donc voilà, le décor est planté, le travail. Et il y a un dialogue magnifique entre Julia Roberts et sa mère, qui est incarnée par Sissy Spacek, qu'on a toujours plaisir à retrouver. Julia Roberts, à l'issue de son parcours, dit à sa mère, « Bon, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Et sa mère lui répond, « You go to work, tu vas au travail. » Et ça m'a fait penser, moi, à la fin d'Eyes Wide Shut, où il y a ce dialogue devenu fameux, « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Let's fuck, faisons l'amour. » Ben voilà, l'idée, c'est que le seul horizon...
Faisons l'amour, vous. D'accord.
Oui, bon, je le traduis comme pour ça savoir, pour être élégante.
Il y a un film qui s'appelle Let's Make Love, mais c'est pas le même genre.
Non, c'est
genre.
Vrai. Mais enfin, bon, là, l'idée, c'est que le seul horizon possible de la réussite dans les sociétés ultralibérales, c'est le travail. Et je trouve que la critique de cette thématique-là est plutôt très fine.
Ah, bon. Est-ce que vous partagez cet avis, Iris Bray?
Oui, j'irais même un peu plus loin. J'ai l'impression que c'est la question un peu de notre responsabilité morale au travail. Je trouve qu'en filigrane, finalement, on parle de la guerre, effectivement, mais c'est assez fin, finalement. C'est quelle est la responsabilité de cette femme qui est psy. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont ses points d'aveuglement? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ça, oui, je trouve ça... En tout cas, ça me parle, parce que je trouve que là, c'est pas trop appuyé. Et effectivement, le fait qu'on prenne parfois le temps d'être dans la parole, puisque de toute façon, comme on part d'un podcast, on n'est que dans la conversation. Mmh. Finalement, il n'y a que ça qui est vraiment, pour moi, qui me prend. Je trouve effectivement que la relation mère-fille est justement la suite d'un de ces dialogues où la mère lui dit « t'étais obligée de prendre ce boulot ». Et du coup, de notre responsabilité morale dans le monde du travail, mais qui va parfois beaucoup plus loin, sans divulgâcher donc quand même ce que la série révèle, je trouve que c'est vraiment le point le plus fort pour moi.
Oui, alors du coup, même si je vous suivrai assez sur l'intérêt de cette thématique, mais sans rien divulgâcher non plus, du coup, cette série ne le traite pas vraiment. Enfin, non, mais c'est compliqué de parler de ça sans sans pouvoir dire davantage aux futures téléspectatrices et téléspectateurs. Bon, on fera le match retour une autre fois. Mais je trouve que même là-dessus, ça ne va pas au bout et du coup, j'ai une frustration scénaristique. Bon, on va dire
saison
que...
Saison 2.
Ouais.
Si, vraiment.
Bon, si vous insistez, on la gardera ensemble, alors, tous les quatre. Homecoming de Sam Esmail est actuellement en diffusion sur Amazon Prime Video.
Everything, it's changed. It's not like how it was when we started. It's like a free world.
A free world.
Mais nous, on n'a pas envie de couper cette chanson. Mais qu'est-ce que vous faites, Guillaume Baldi, qui réalisait cette émission? On a envie de danser, il y a un dance floor ici au Bel Air. Bon, Iris, défaut de danser, vous allez enfin aimer une série ce soir, c'est normal, c'est votre coup de cœur.
C'est la seule.
The Deuce. Ah, vous dévoilez déjà.
Pardon,
la suite.
Divulgage la suite.
The Deuce, saison 2. On a parlé de la saison 1, la saison passée, forcément.
Oui. Et là, je trouve que la saison 2 prend vraiment une autre dimension. J'ai l'impression de retrouver le David Simon de The Wire, quand en 2002, il avait un peu révolutionné le monde des séries en se penchant pendant 5 années sur qu'est-ce que c'est que la criminalité dans la ville de Baltimore, où il utilisa justement la forme sérielle pour fournir un kaléidoscope de points de vue refusant le manichéisme et nous emmenant autant du côté des flics que des voyous. Et David Simon et Ed Burns avaient réussi tous les deux à créer cette cartographie fascinante en dessinant tous ces faisceaux entre tous ces personnages, mais qui étaient tous liés à une ville, à un seul lieu. C'est la même chose en fait qui est à l'œuvre dans The Deuce. Hein, le showrunner part d'un lieu, la 42e rue à New York, qui porte le nom de The Deuce, une rue dans les années 70 qui est en fait une sorte de microcosme où se mélangent prostituées, mafia et flics. David Simon reprend donc ce qu'il sait si bien faire, développer une dizaine, non mais personne ne le fait aussi bien que lui, une dizaine de personnages qui avancent tous en même temps, et en même temps il y a une intrigue qui est là, qui nous ramène à chaque fois, c'est absolument extraordinaire, sauf que cette saison 2, elle prend en plus une autre dimension, une dimension politique et artistique. La première saison, comme toutes les séries HBO, multipliait les scènes de sexe, on imagine, avec toutes ces prostituées et ces personnages féminins très sexy, hein, des scènes qui étaient justement là pour que le spectateur ou la spectatrice se rince l'œil. Mais cette saison 2 marque une toute autre approche. C'est peut-être le résultat de l'arrivée d'une Intimacy Coordinator. C'est un nouveau titre, c'est un nouveau métier à Hollywood.
On va traduire en français comment ?
Coordinatrice d'intimité. Donc c'est le nouveau job de Alicia Rodis qui a été embauchée par HBO et qui sévit dans toutes les séries en fait où il y a des scènes de sexe. Elle est présente sur le plateau pour aider les comédiens et les comédiennes à veiller à ce qu'ils soient à l'aise pendant le tournage des scènes de sexe. Et David Simon a adoré cette expérience. Il a déclaré à Rolling Stone qu'il ne travaillerait plus jamais sans coordinateur ou coordinatrice d'intimité.
Et qu'a dit James Franco ? Parce que c'est ça qui nous intéresse.
Non, je ne sais pas ce que James Franco a dit. Moi, ça m'intéresse très peu. Mais en fait, cette réflexion autour de comment est-ce qu'on montre le sexe, il va encore plus loin, évidemment, David Simon, en incarnant sa réflexion à travers le personnage de Candy, qui est interprété par la géniale Maggie Gyllenhaal. Elle est pute dans cette... Enfin, elle est pute sans Mac hein, dans la première saison, mais dans la saison 2, elle va décider de devenir réalisatrice de films porno. Donc, dans une industrie qui débute tout juste dans les années 70. Et donc, le personnage se bat pour qu'on voit dans les films porno la perspective de la femme et donc des orgasmes féminins, des fantasmes féminins. Évidemment, toute l'industrie résiste à ça. Et c'est une mise en abîme, en fait, assez claire de ce qui se passe aujourd'hui en 2018 à Hollywood. Parce que David Simon, il a non seulement compris que cette question, c'était un enjeu politique majeur en 2018, mais il a surtout compris que c'était avant tout un enjeu créatif. David Simon nous montre les films qui sortent de l'imaginaire de Candy, à quoi ressemblent ces scènes de sexe d'un point de vue féminin et comment ces scènes sont différentes formellement. David Simon était un des premiers à utiliser la richesse de la forme sérielle pour explorer la multiplicité narrative dans The Wire. Il devient aujourd'hui l'un des premiers à jouer avec la multiplicité des regards, à défendre la valeur et la nécessité d'un female gaze, d'un regard féminin dans la production d'images. En créant ce discours au sein même de la série, The Deuce devient une des séries les plus contemporaines de notre époque. Et David Simon, l'un des créateurs le plus en avance sur ces questions.
Ah ben voilà, au moins les choses sont claires. Vous n'avez pas un livre qui ressort là ces temps-ci, Iris Bray, aux éditions de l'Olivier, les excellentes éditions de l'Olivier ?
Oui, qui s'appelle Sex and the Series, et je parle notamment de The Deuce.
Évidemment, c'est pour faire le lien, c'est pas pour faire de la publicité en passant. The Deuce, de George Pecano, c'est David Simon, saison 2, diffusée sur OCS.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Et la dernière séquence de cette dispute série en direct du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, c'est Castle Rock, créé par Sam Shaw et Dustin Thomason, avec parmi les producteurs exécutifs J.J. Abrams. Tous les amateurs de Stephen King connaissent la ville pourtant imaginaire de Castle Rock, où se déroulent nombre de ses livres. La grande originalité de cette série, pendant que Lucille Gaumont parle avec Maurice Pinault hors champ, est d'avoir créé une histoire originale en se nourrissant du corpus du romancier.
Young man, who are you? What's your name?
We got no records of you. How'd you get inside this prison? Who put you down that hole?
What brings you home?
I got a call from Shawshank. I found a kid in a cage.
Call from who?
Don't know yet.
How's it begun?
There's a place where lovers go to cry their troubles away. And they call it.
People say,
lonesome town,
every inch of this town,
where the broken heart stays,
is stained with someone's sin.
I'm telling you, there's something wrong.
Louis Lucille Cobo, c'est à vous maintenant. Vous avez remis votre casque pour ne plus entendre les bavardeurs du fond de la classe. Alors, Castle Rock.
Bon bah ça va pas très très bien. Hein.
Castle Rock, vous dites-vous? Oui. Carrément.
Non, je dis Castle Rock, non.
Ah bon,
je dis
d'accord.
Quoi. Donc c'est une, donc vous l'avez dit, c'est une série qui est inspirée de toute l'œuvre de Stephen King. Donc du coup en fait c'est une série qui fonctionne un petit peu pour décrire la structure comme un jeu de plateau ou comme un jeu vidéo avec des pôles qui seraient des lieux dans cette ville de Castle Rock, donc en Nouvelle-Angleterre. Il y a la prison, qui est, tous les décors sont assez bien faits ça pour le coup. Voilà, il y a la maison du directeur, il y a la maison du héros qui s'appelle Henry Deaver, donc qui est un avocat qui revient chez lui. Dans sa ville d'origine et du coup qui retrouve sa mère et l'amant de sa mère. Il y a la forêt dans laquelle lui il a disparu quand il était enfant. Voilà, il a disparu, il a réapparu, personne n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Et voilà, donc entre ces différents pôles circulent au début, on pense, plein d'histoires différentes. Donc il y a une histoire d'un homme qui est retrouvé dans une cage, dans une cave de la prison. Il y a une histoire d'une jeune femme qui est télépathe et qui entend un peu tout ce qui se passe dans la tête des gens, et notamment dans celle de Henry Deaver. Il y a celle de la mère d'Henry Deaver qui est atteinte d'Alzheimer et dont la maladie finit par troubler à peu près tout le monde autour et a instillé un problème de temporalité à peu près tout le monde dans l'histoire. Et puis il y a plein d'autres petits fils narratifs qui ne servent pas à grand chose, qui à mon avis sont les plus intéressants. Non mais pour le coup... voilà. Mais sinon, globalement, on a l'impression au départ que tout ça est extrêmement riche et au bout de 4-5 épisodes, tout se ramasse comme une grosse ficelle narrative bien costaud. Et alors là, pour le coup, en termes de fléchage, on est à plein dedans. Moi, je pense que c'est plus possible, en fait, de faire du Stephen King au premier degré parce qu'on a déjà trop vu dans des films. Il y a eu des très bons films, comme on le sait. Il y a eu des séries qui reprennent cette esthétique-là, qui reprennent ce principe-là. Donc, l'idée juste de baliser en permanence, pendant 10 épisodes assez longs, un territoire qui est le territoire maudit dans lequel à la fois tout le monde est coupable et personne n'est coupable, c'est quand même compliqué. Moi, je me suis beaucoup ennuyée. En fait, j'avais un peu envie de me passer en mode exploration. Vous savez, ce mode dans les jeux vidéo où, en fait, on n'est plus un héros, on est juste une personne qui se balade et qui regarde les endroits, parce que c'est assez beau en termes de réalisation. Il y a des moyens, quoi. C'est plutôt bien fait. On a juste envie de se balader dans la prison, de se balader dans les maisons qui sont toutes plus horribles et plus hantées les unes que les autres. Mais par contre, l'histoire n'a aucun intérêt. Vraiment, n'a aucun intérêt. Je suis allée jusqu'au bout. C'est juste une sorte de démonstration de force, de on veut vous retourner le cerveau, donc il y a des milliards d'arches temporelles qui se dépassent les unes des autres, il y a des personnages qui sont le revers de l'autre, enfin ça devient vraiment n'importe quoi. Honnêtement, si je devais mettre à plat les enjeux narratifs à la fin, je serais bien en peine, quoi.
Bien en peine, hein, bien en peine de l'avoir regardé déjà. Oui. Iris Bray sur Castle Rock.
Je n'ai pas regardé jusqu'au bout, il faut quand même le
mais
dire.
Mais non.
Si, non, c'est pas possible.
Ah, mais c'est un scandale, c'est un sorti scandale. D'ici.
Oui, j'ai regardé les 4 premiers épisodes, je dois dire, c'est
plus... C'est mal, hein, Iris.
Oui, je suis désolée, mais vraiment, en fait, c'est juste plus possible de faire ça aujourd'hui. Il y a tellement de séries, ça va tellement vite de nous donner des épisodes comme ça aussi longs. J'ai plus envie, en fait, et je suis pas assez accrochée. Alors, un des producteurs est J.J. Abrams, et c'est vrai qu'on pense un peu à Lost au début. Je me suis dit, ah, ça va peut-être être cool. Mais rapidement, non, j'ai un peu envie, comme Lucille Como, qu'on me donne la télécommande et de pouvoir rentrer dans ce jeu et de moi-même mener l'enquête. Qui est cet homme dans cette cave? Est-ce vraiment le diable? Je suis très frustrée par plein de choses. Je trouve qu'on a vu énormément d'adaptations récemment dans les séries de livres de Stephen King que personnellement je ne lis pas, donc c'est peut-être un problème d'imaginaire que moi je n'ai pas, et du coup toutes les références je ne les ai pas comprises, je pense. Il y a eu la catastrophique The Mist, on ne s'en souvient même plus, et on y a vu
j'attends la saison 2 moi.
Il y avait eu 11, 22, 63 dont on avait parlé ici, qui était un peu mieux.
Avec James Franco.
Avec notre ami.
Mais déjà, le même problème de premier degré sur le matériau littéraire.
Moi, c'était quand même beaucoup mieux.
Oui, mais il y a quand même un truc commun.
Je pense que moi, c'est vrai que je le ressens absolument comme un premier degré. J'ai lu sur Internet des gens qui sont vraiment fans de l'œuvre et qui, du coup, comprennent tous les faisceaux de référence, et peut-être que ça amène autre chose. En tout cas, si on n'est pas fan, moi, vraiment, il me reste quasiment rien. Surtout que, c'est-à-dire que toutes les techniques, en fait, pour nous faire peur. En même temps, je vais parler d'une autre série, je suis désolée, mais je n'arrêtais pas de penser à The Haunting of the Hill House, qui est en ce moment sur Netflix, où là, j'ai vraiment eu peur, et là où il y a vraiment... Oui, j'ai vraiment eu peur.
Vous me conseillez ?
bah déjà beaucoup plus que Castle Rock, parce que en fait il y a vraiment The Haunting of Hill House, c'est sur la folie, et ça m'intéresse, c'est des personnages qui sont fous, et de pousser justement que comment est-ce qu'on représente la folie, ça m'intéresse. Et là dans The Castle Rock, j'ai l'impression que ça ne parle que d'un lieu, et donc la ville devient un personnage, mais donc un personnage qui n'a pas vraiment d'identité profonde, ou en tout cas qu'on j'ai pas envie de suivre, j'ai juste envie de l'explorer comme voilà, une exploratrice dans un jeu vidéo. Mais
Dora et Iris, voilà. L'exploratrice. Mathilde Wagman, Castle Rock.
Oui, malheureusement, je ne vais pas apporter une note très différente. Moi, je me suis beaucoup, beaucoup ennuyée aussi. Je trouve qu'en effet, les intrigues, il y a peut-être 10 fils narratifs dans cette série, donc on s'y perd très, très vite. Enfin, voilà, moi, j'ai été complètement perdue très rapidement. Il y a un moment, un épisode, l'épisode numéro 8, je crois, où on entrevoit la possibilité de peut-être ce que aurait pu être cette série si les auteurs avaient décidé d'aller un peu du côté de l'humour. Tout d'un coup, il y a des personnages qui sortent de nulle part, mais bon, pourquoi pas. Un couple qui arrive dans cette ville pour exploiter le fait que cette ville est la première, la ville dans laquelle il y a eu le plus de crimes à une année précise, et des crimes qui ont tous eu lieu dans des circonstances plus atroces les unes que les autres. Donc ils installent par exemple dans leur salon un mannequin avec une hache plantée dans la tête.
Vous le mimez bien, c'est dommage pour la radio.
On ne voit pas à la radio, mais enfin voilà, c'est assez drôle.
Très beau mime.
Je vous remercie. Et tout d'un coup, voilà, c'est drôle, on souffle un peu, on respire, on rit. Et on se dit que cette série aurait pu exploiter toute l'esthétique et tout le côté drôle des films gore, des films de série Z, des films de série B, de certaines adaptations de Stephen King. Mais ce n'est pas du tout le cas, donc on ne cesse d'être déçu. Voilà, d'autant plus que figure au générique Sissy Spacek. Évidemment, Sissy Spacek, c'est Carrie. Voilà, c'est Carrie de Brian De Palma, donc on ne peut pas ne pas avoir en tête toutes les adaptations cinématographiques réussies de l'univers des romans de Stephen King. Mais malheureusement, on ne peut que se dire, eh ben là, c'est raté.
Bon, en fait, il faut venir au Bel Air, hein, pour voir votre art du mime.
Mais ça, oui,
c'est
venez
pour ça qu'on
au
est en public le vendredi soir. Bon, je suis pas gâté ce soir parce que du coup, moi, j'ai rien aimé du tout. Aucune des trois séries. Donc, mais moi, j'ai regardé jusqu'au bout parce que moi, j'ai une conscience professionnelle.
C'est bien.
Iris Bray, parce qu'on l'a mis au programme de cette dispute. Mais sérieusement, si ça avait pas été le cas, j'aurais lâché l'affaire très vite.
Au bout de 10 minutes.
Peut-être pas, parce que vous êtes bon. Vous avez un avis qui est très vite forgé. Je vais dire ça comme ça, Lucille Gaumont. C'est vrai que, enfin, en même temps, si on a quand même vu des films et vu des séries, les références et les clins d'œil à Stephen King sont tellement énormes et tellement appuyés que vous faites un peu preuve de mauvaise foi. Iris Brand, nous disons que vous n'avez pas les codes parce que vraiment c'est tellement répandu et tellement connu qu'on en voit beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un hommage à Stephen King qui manque de Stephen King.
Qui est producteur d'ailleurs.
Touche un chèque, non ? Je ne suis pas sûr qu'il regarde absolument le scénario. Ou alors il doit se dire, vous voulez faire de Stephen King sans moi ? Mais c'est nous qui payons après en regardant. Mais les histoires de double réalité, de rebondissement extrêmement forcé, ce n'est pas possible. Mais c'est ce qui est dommage, parce que moi j'aime bien cet acteur qui joue ce personnage mystérieux enfermé dans une cage, qui a un physique. Alors pour le coup,
il est magnifique là.
Voilà. Enfin, le cri du cœur de Lucille Gaumont.
Moi, je le trouve du. On parle de qui ? On parle de
Skarsgård.
Oh là là, je le trouve d'une laideur, personnellement.
Alors.
Il a le regard torve. C'est le regard bovin. Enfin, moi, je trouve.
Pas dans tous les épisodes, parce que lui, c'est un vrai acteur, vous savez. Si on est sur le physique, on peut continuer comme ça. Puisqu'on a parlé de Garance Marillier tout à l'heure, on peut bien parler. Comment vous l'appelez ? Cet acteur que vous aimez tant,
Skarsgård.
Formidable. Moi, je trouve que lui, il a un potentiel extraordinaire. Alors qu'on le trouve beau ou pas beau, c'est vraiment pas du tout la question. Mais il amène quelque chose, et c'est vrai que ce personnage. On redresse le micro. En même temps qu'on parle dans cette émission, on est plurifonctionnel. Moi, j'avais envie de le voir davantage, et j'ai envie de le voir dans d'autres rôles. Il ne vous a pas intéressé non plus, ce personnage, Iris Bray.
Pourquoi pas,
d'accord. Cachez votre enthousiasme. Castle Rock, on n'a pas envie d'en dire beaucoup plus. Je sais comment.
Non, c'est vrai que sur l'humour, il y avait quelque chose à faire. Il y a cette histoire
de
Airbnb horrifique, là. Et puis, il y a un personnage qui concentre une petite jeune fille qui concentre toute la capacité série B potentielle qui regrette en fait en permanence. Elle a des petites apparitions, qui se passe plus rien dans sa ville alors qu'elle passe à côté des meurtres à chaque fois, et c'est elle d'ailleurs qui prend en charge l'épilogue de la série, et on se dit mais c'était ça en fait qu'il fallait faire. Mais
Jackie Torrance, ça fait 10 épisodes que vous faites pas.
Voilà. Ouais. Non, mais c'est pas mal en fait, c'était ça qu'il fallait faire, mais ils n'ont pas fait
ça. Ils n'ont pas compris. On va leur dire. pas sûr qu'il y ait une deuxième saison hein, de Castle Rock.
Oh bah non, là, ils ont tout balisé à fond, là, il n'y a plus de lieu. Ah bah,
ils peuvent en faire au contraire à l'infini.
Ah oui, ailleurs.
Ah oui, des choses comme ça. Castle Rock. Bon, on vous le conseille pas vraiment, on peut le dire comme ça. Cette série qui est diffusée sur Canal+, elle est signée Sam Shaw et Dustin Thomason. Comme quoi, on peut être fan. Ça ne donne pas forcément la bonne recette. Et on peut venir au Bel Air le vendredi soir aussi pour voir à quoi ressemble Sarah Dion qui chaque soir fait gagner des cadeaux à nos auditrices et auditeurs. Elle est là, Sarah, elle nous rappelle la question d'abord du jeu d'hier au soir et nous donne sa réponse. Risbré, c'est pas beau de regarder par-dessus l'épaule.
La question était quel film des frères Taviani a remporté la Palme d'Or ? Et la réponse était Padre Padrone.
Et on fait gagner ce soir des invitations à l'exposition. Elle ne peut pas s'empêcher de regarder Risbré. Elle est taquine. L'exposition Martine Franck, c'est à la Fondation Henri Cartier-Bresson, dans ces beaux nouveaux locaux de la rue des Archives à Paris. Exposition à voir jusqu'au 10 février. Quelle est la question ?
Quel est le nom de la coopérative photographique fondée en 1947, notamment par Henri Cartier-Bresson ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut réécouter nos émissions et bien sûr s'abonner au podcast. Rendez-vous lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Nous serons en compagnie de Marie-Josée Sirache, Marie Sorbier et Jean-Christophe Brianchon. Notre affiche L'école des femmes de Molière, mise en scène Stéphane Brunschweig à l'Odéon. Demi-Véronique, une création du collectif La Vie Brève, à partir de la 5e symphonie de Mahler, c'est au Théâtre des Bouffes du Nord. Le Grand Sommeil de Marion Seyfert à la Commune, Centre Dramatique National d'Aubervilliers, puis un coup de cœur de Jean-Christophe Brianchon pour Avion Papier du collectif La Méandre.